la seule chose tout triste, plus attristante, mais je ne pourrais commencer sans dire sans exprimer mon émotion à notre chère Eliane, qui m'a beaucoup encensé, la personne modeste que je suis, et en est un peu gênée, si ce n'était que l'affection qui nous lie, et je sais que c'est à travers ça, surtout que vous vous êtes exprimé, mais je ne mérite pas d'être tant d'éloges, hein. J'ai fait mon devoir, et je considère que c'était à faire, et si c'était à recommencer, eh bien, je poursuivrais. Voilà, ce soir, je vais donc vous entretenir sur les enfants des yeux. C'est pas très stable, hein. Merci. Parce que je me suis beaucoup penchée sur leur cas depuis quelques années, et pour vous faire comprendre un petit peu, l'origine de ces enfants et pourquoi ils étaient là, il faut remonter un tout petit peu avant entre les deux guerres mondiales en particulier, et vous dire, je vais vous présenter un petit peu ici à travers le bulletin qui me paraît régulièrement, tout a commencé en Europe. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des démocraties au fascisme et au nazisme, de la France républicaine à la France de Vichy, le sort des Juifs bascule dans le mépris, la négation absolue, l'indifférence. Alors, très vite, le port de l'étoile jaune en France. Le poison de l'antisémitisme. Une autre fraction, celle-là immense, composée d'étrangers ou de quasi-étrangers, naturalisés de la veille, venus de tous les points de l'Europe, principalement de l'Allemagne, de la Russie et du Levant, presque sauvage, dans laquelle l'élément juif métèque a très peu de peine à dominer. Voici la violence des mots avec lesquels Charles Maurras, dans son journal L'Action française, décrit le 18 février 1936 le peuple de gauche. Son quotidien tire en moyenne à 100 000 exemplaires. Deux ans plus tard, il est élu à l'Académie française. Son audience dans la vie politique et intellectuelle française est très importante. Voilà donc pour vous présenter un petit peu les origines de la venue de ces enfants l'avant-guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, d'abord, je repars. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ces familles juives étrangères furent bien accueillies, car la France, qui perdit tant des siens lors de ce premier conflit, avait besoin d'une main-d'œuvre de remplacement pour repartir et faire redémarrer une économie exsangue. Et les enfants nés de ces familles juives venant d'Europe centrale, chassés par les pogroms, donc nés en territoire français, reçurent de fait la nationalité française. Mais hélas, les difficultés commencèrent, précisément à l'instigation d'hommes comme Maurras, pour leurs parents, qui ne parvinrent pas à acquérir la nationalité française. Ainsi, la famille Alon Brenner, originaire de Pologne, dont deux de leurs enfants seront placés à Izieux, en 1943. Beau prétexte pour les arrestations ensuite, parce que non seulement on ne reconnaissait pas la nationalité française, mais à ceux qui l'avaient acquise récemment, les lois de Vichy imposaient qu'on leur retire cette naturalisation, et de fait, les familles étaient devenues apatrides. Et apatrides, c'était un prétexte pour les Allemands, c'est sans patrie et on va les arrêter. La xénophobie très forte dans les années 1930 est avivée par la guerre et les conséquences de la défaite. C'est dans ce contexte que l'État français de Vichy, sans attendre même les pressions allemandes, prend dès le 3 octobre 1940 des mesures anti-juives, officialisant cette odieuse entreprise, la chasse des juifs. Tous radiés de leurs postes d'enseignants, de hauts fonctionnaires, de petits fonctionnaires, de rédacteurs de presse en ce qui concerne les juifs français, la loi fait des juifs, qu'ils soient français ou étrangers, un groupe à part. Exclusion de tout, obligation de faire les courses dans un laps de temps imposé. privation de THF, on appelait ça la THF, la radio autrefois, privation d'accès au spectacle, d'entrer dans un jardin public, pour les enfants de jouer dans les parcs à jeux. Sans oublier l'obligation stricte de n'entrer pour les transports que dans le dernier wagon du métro. Je pense, Eliane, à Martine Laville-Delville, élevée par sa grand-mère juive, et qui nous disait « Toute ma jeunesse et toute mon enfance, tant que nous sortions encore, c'était dans le dernier wagon du métro que nous devions monter, où nous étions serrés, bourrés, et puis après, plus du tout, parce que c'était trop dangereux. » Il y avait aussi l'obligation de livrer aux autorités les postes de TSF de l'époque. Et il n'y en avait pas des quantités, c'était peut-être, je ne sais pas moi, il y en avait un par 20 ou 30 familles françaises, mais vous voyez, comme quoi on les privait de tout. Privés de tout, comment allaient-ils survivre? J'ajouterais que les industriels, les commerçants juifs et tous ceux en possession d'une petite affaire quelconque étaient spoliés de leurs biens, au profit de l'État français et des sbires nazis, dont le prétexte était d'organiser les affaires juives pour mieux les piller. Dans un tel contexte, ceux-là furent vite recensés, poursuivis, rendus à l'impuissance, sans appui de la population, qui pour une bonne part conditionnée ou pour une autre part mise sous surveillance ou dans une crainte perpétuelle d'être sanctionnée sévèrement, s'il intervenait en faveur des Juifs, des résistants ou de toute autre frange opposante. Tout ceci pour vous amener à comprendre, à travers le déroulement d'un tel processus tragique, le sort tourmenté de ces enfants, pour beaucoup étrangers aussi, transportés avec ou sans leurs parents de camp en camp, en particulier dans le sud-ouest. C'est près d'une centaine de camps et de lieux d'internement qu'on a comptabilisés en France. Et les enfants juifs y payèrent un lourd tribut. Je sais combien, depuis que ce fut connu et relaté, a été cruel l'internement odieux de ces enfants au camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, dont les parents furent déportés et qui restèrent seuls dans ce camp déserté, pour certains dans ce camp déserté. Sous la surveillance de gendarmes français qui, décontenancés pour certains, ne savaient comment se comporter devant pareils délinquants. Les plus grands, 12-14 ans, ou du moins les plus grands, m'a-t-on dit, puisque j'en ai rencontré quelques-uns, quelques rares rescapés, s'occupaient des plus petits qui pleuraient, appelant leurs parents et confinés, ne sachant où les caser, par les faire périr dans les chambres à gaz d'Auschwitz où avaient été déjà exterminés leurs parents. Quelle monstrueuse ignominie accomplie là par l'État français de Vichy qui cautionna et ordonna un tel meurtre. Je vous assure que j'en étais bouleversé quand on a appris de telles horreurs, on les apprenait quand même plus ou moins malgré la presse censurée, et quand on nous a dit des enfants sont en partance dans un camp abandonné de tout et même pas nourri, ça ne pouvait que nous indigner et nous inciter à faire tout ce que l'on pouvait lorsqu'on les rencontrait pour les prendre en charge ou les aider. Et quelles circonstances atténuantes invoquer, sinon dire et affirmer la monstruosité d'un tel régime complice de l'envahisseur? C'est parce que j'ai connu et admiré les auteurs de sauvetage courageux d'enfants juifs que j'y ai été un petit peu entraîné aussi. D'enfants juifs, en dépit de tous les pires dangers, parce que j'ai rencontré les personnes admirables qui se sont vouées à ces sauvetages, telles Madame Zatin, la directrice des yeux, ou encore Germaine Rivière, du réseau de résistance du Musée de l'Homme, ou Marianne Cohn, torturée par les nazis et retrouvée dans un charnier à Ville-la-Grand, à laquelle j'avais fait une carte d'identité en maintenant ses initiales, j'avais appelé Marie Scolin. C'est donc parce que j'ai approché des gens de cette hauteur-là que je me sens un peu apaisée vis-à-vis d'horreurs telles que celles vécues par les enfants, abandonnés à eux-mêmes à Beaune-la-Rolande. Ces femmes, ces hommes admirables, ont sauvé l'honneur de la France en sauvant tous ses enfants, en les faisant passer en Suisse ou en les plaçant dans des familles consentantes. Ils appartenaient à l'OSE. L'OSE, c'est une œuvre, on appelle ça l'œuvre de secours aux enfants. C'est par là que j'ai été entraînée, d'ailleurs, dans ce pillage. L'œuvre de secours aux enfants, d'inspiration russe, je crois, et avait été créée en Russie. Ça s'appelait la Société pour la protection sanitaire des populations juives. Germaine Rivière, comme beaucoup d'autres, ont fonctionné justement pour l'OSE. Ces femmes, ces hommes admirables ont donc sauvé l'honneur de la France. Ils ont fait l'impossible lorsque les nazis envahirent la zone sud en novembre 1943 pour ramener en des lieux soi-disant de repos ou de remise en forme ou encore appelés colonies de vacances, ceux des enfants, en des lieux plus sûrs, ces enfants, autrement dit en des lieux plus sécurisés, car ces rassemblements d'enfants juifs n'étaient pas ignorés de l'occupant, dont la première préoccupation en envahissant la zone sud avait été de les rechercher pour les arrêter et les faire périr dans les camps d'extermination. Leur haine à l'égard des juifs, toujours attisée par leur idéologie perverse, se présentait à eux comme un devoir, celui de purger l'Europe de ses populations indésirables. Aussi, redoutant la multiplication des arrestations de juifs, et particulièrement des enfants qu'on avait pu protéger jusque-là, l'OSE, l'Amitié chrétienne, l'IMCA, les Quakers, s'employèrent à fond pour la protection des enfants. C'est ainsi que Mme Zabine Zlatin, infirmière de formation, ayant perdu son emploi comme juive, refusa d'accepter cette obligation et s'investit à fond pour trouver une maison afin d'y loger plus de 40 enfants. Et que je vous dise quelques mots sur Sabine Zlatin, qui fut une femme admirable, et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'on a pu fonder, créer la Maison des Dieux. Immigrante juive polonaise, naturalisée française à la veille de la guerre avec son mari, Sabine Zlatin est à Montpellier en 1941, à la même époque que le rabbin Chili que nous connaissions. Ayant perdu son emploi d'infirmière en raison des lois antisémites, elle refuse de se laisser abattre. Volontaire et déterminée, elle contacte la préfecture de l'Hérault, où elle propose ses services comme infirmière. La préfecture, c'était encore la zone non occupée à l'époque. La préfecture la dirige vers l'œuvre de secours aux enfants. Très présente dans le sud de la France, cette association développe des activités d'assistance en faveur des enfants internés. Elle s'emploie à faire libérer les jeunes internés par le biais notamment de certificats d'hébergement pour ceux de moins de 15 ans. Et je me rappelle avoir été indignée parce que nous avions appris par la Suisse qu'on avait refoulé des familles juives avec enfants et que les autorités allemandes attendaient à la frontière, et ça c'était quand même le gouvernement fédéral de l'époque, le gouvernement fédéral de Berne, qui refusait en prétendant que la barque était pleine, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un nombre de réfugiés trop important. En réalité, il y a eu après la guerre des enquêtes qui ont révélé qu'ils avaient des stocks de vivres qui auraient permis de supporter bien davantage encore, d'accepter davantage encore de ces réfugiés. Et c'est donc par Mme Zlatin qu'a eu lieu on a pu ouvrir cette maison des Dieux. Il y a donc eu plus de 40 enfants à Isieux, 44 exactement, et il a fallu d'ailleurs subvenir à leur entretien et effectivement pourvoir à leurs besoins. Ses enfants, elle avait été appuyée en cela par le sous-préfet de Bonnet, que j'ai d'ailleurs vu une fois ou deux auprès d'elle, dans les années d'après-guerre. Aucun de ses enfants n'avait connaissance du sort de leurs parents. Mais s'ils vivaient à la dure, en fonction des ressources modestes de l'époque, et des restrictions bien sûr, ils étaient aimés, entourés, instruits, éduqués, élevés dans l'amour de leurs parents, auxquels on leur faisait écrire régulièrement. Il faut lire ces belles lettres si pleines d'amour et de tendresse dans la maison du Dieu, où elles sont toujours exposées. J'ai encore connu l'institutrice, mademoiselle Perrier, l'institutrice de ses enfants, qui est venue pendant de nombreuses années pour les commémorations annuelles de la rafle. Retrouver les anciens ou quelques rares rescapés avec bonheur. Elle-même fut relâchée, car reconnue comme non-juive. Et cette épopée marqua sa vie à tout jamais. Ce que je voulais dire encore, c'est que parmi vous, il y en a qui ont connu Samuel Pintel. Samuel Pintel, rescapé de la rafle d'Annecy, était rescapé d'Isieux également. Il est aujourd'hui le secrétaire général de la Maison d'Isieux. Très, très actif, et il m'a demandé à plusieurs reprises d'aller témoigner, et ce qui m'est arrivé récemment encore. Je vais vous en dire quelques mots. Oui, ce drame de l'arrestation et de la disparition des 44 enfants juifs dans les chambres à gaz du mouroir d'Auschwitz, l'assassinat du directeur Miron Platin et de deux adolescents en Estonie, interrogèrent enfin les consciences. Le procès à Lyon de Klaus Barbie, retrouvé en Bolivie par les époux Carcel, mit l'accent sur l'horreur des crimes et particulièrement sur les enfants d'Isieux. Des séquences de ce procès sont toujours projetées au musée d'Isieux. J'ai encore dans les oreilles la voix de Sabine Zlatin criant à l'accusé « Mais les enfants, qu'avaient-ils à être concernés par la guerre ?» Et elle criait très fort. « C'était des innocents !» Elle criait ça à Barbie. Il avait l'air d'être indifférent, d'ailleurs. L'on pourrait épiloguer longtemps sur cette tragédie, l'une des plus atroces de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la Maison d'Isieux, achetée grâce à une souscription nationale sous la présidence de François Mitterrand, appartient à notre patrimoine, fonctionnant grâce à une association gérant le musée mémorial. C'est une mémoire vivante et active, s'adressant au public de l'éducation nationale, recevant écoliers, collégiens et lycéens de toute la France et de l'étranger, ainsi que des visiteurs internationaux. Tout au long de l'année, de nombreuses activités sont proposées. C'est très, très pédagogique. Rencontres, colloques, expositions, conférences, travaux de chercheurs, d'universitaires. J'y suis moi-même intervenu à plusieurs reprises, soit en présence de classe avec élèves ou professeurs, soit en témoignant, soit en échangeant par exemple récemment devant des étudiants allemands et italiens, ces derniers issus d'une ville, Nonantola, où s'était déroulée au temps du fascisme la même tragédie qu'à Isieux vis-à-vis d'enfants juifs d'Italie. La directrice Geneviève Eramusté fait résonner à travers le monde l'enseignement de haute qualité qui est ce symbole sur le plan humain. De nombreux projets sont en cours qui répondent à une véritable vocation pédagogique, mise à disposition des enseignants de moyens pour compléter leur travail ou développer de nouveaux projets tels qu'ateliers d'hiver, rencontres avec des témoins ou des rescapés, voyages sur des lieux de mémoire. Oui, je vous ai déjà dit que le secrétaire général de la Maison d'Isieux est donc un rescapé de la rafle des Marquisats et de celle d'Isieux. C'est un lieu non seulement hautement symbolique, mais aussi foncièrement pédagogique, et il reçoit en période estivale surtout des visiteurs du monde entier, en grande partie des Américains. Je suis toujours surprise d'apprendre que peu de personnes ici, à Annecy ou dans mon environnement, de peu de personnes à ma connaissance, aient découvert ce haut lieu d'une mémoire tragique à perpétuer, alors que nous sommes par l'autoroute à 1h15 environ d'un parcours agréable, 1h30 par les nationales et départementales sillonnant la campagne. À voir, à méditer et à faire connaître pour ne pas oublier. Car oublier le passé, c'est s'exposer au risque d'avoir, ici ou là, à le revivre tôt ou tard. Je ne saurais assez vous encourager à vous rendre à Isieux en famille et à encourager de même votre parenté, vos amis, pour découvrir et approfondir cette page de notre douloureuse histoire. Et voyez, je vais vous lire quelques petits témoignages du compte-rendu de l'Assemblée Générale et qui sont vraiment assez probants de tout ce que je vous ai confié ce soir. Excusez-moi, je ne suis pas une conférencière, c'était une simple causerie, mais dans les comptes-rendus d'Assemblée Générale, il y a, dans les rapports d'activité, on peut dire, dans ce rapport d'activité récent, qui atteste du travail effectué par une équipe réduite et du respect des missions qui résultent de l'histoire des enfants de Dieu, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une fréquentation accrue de façon considérable pour tous. Doublé pour les scolaires depuis l'ouverture. Moi, j'ai averti le souvenir français à Annecy, et dans le département, il y a eu, je ne sais pas bien de combien de classes de primaire emmenées par le souvenir français sur ces lieux, en ces lieux. Il y a tellement de demandes maintenant d'accueil, de conseils auxquels ils ne sont plus en mesure de répondre faute d'espace et de personnel qu'on va être obligé d'agrandir, de faire une salle de travail. Il y a des partenariats constitués avec des institutions lyonnaises, l'École nationale supérieure lettres et sciences humaines de Saint-Cloud, le Centre historique de la résistance et de la déportation, la chaire lyonnaise des droits de l'homme, des partenariats nationaux et européens également, en particulier avec le mémorial de la Shoah. Ces liens sont l'occasion de développer des projets d'envergure, de renforcer visibilité et efficacité, de nous situer au sein d'un vaste réseau de mémoire qui sera indispensable pour aborder la période qui s'annonce. Et il y a aussi des projections de films, la projection du film de TF1, La Dame des Yeux, dont la première a eu lieu à Lyon en février 2007, a déclenché un afflux de visiteurs de façon immédiate. Et l'équipe a dû se mobiliser pour les accueils de fin de semaine. Il y a des colloques nombreux, juger les crimes contre l'humanité. Enfin, il y a des colloques sans cesse et toujours renouvelés et très enrichissants. Donc, je ne saurais vous redire combien la Maison des Yeux mérite une visite et une visite approfondie. Voilà, merci pour votre attention. Excusez-moi, c'était un petit peu décousu, parce que j'ai un premier.
Juste deux choses. D'abord, vous pouvez. Combien il y a eu de rescapés finalement?
Il y en a eu deux ou trois, c'est tout. Il y a eu une personne qui a réussi à s'évader, une vraie, qui était prise dans la rafle, qui a réussi à s'évader, une qui est revenue de déportation, et c'est tout. Il y a eu 44 enfants tués et 4 adultes aussi fusillés. 3 adultes fusillés, le directeur et les deux surveillants.
Quelle était leur couverture officielle avant d'être découvert?
Écoutez, comme ici, c'était
centre
de vacances. Il faut dire qu'il y avait des centres de vacances un peu partout, par exemple en Haute-Savoie. Moi, j'étais un peu responsable à la préfecture des centres. On avait réquisitionné tous les hôtels de Megève ou de Chamonix pour recevoir les enfants des villes bombardées. Et on y mettait des enfants juifs au milieu d'entre eux, parmi eux. Et c'était, soi-disant, des centres de remise en forme. Il fallait que ces enfants de villes bombardées ou de lieux où on ne pouvait pas se ravitailler avaient besoin de l'air de la montagne, d'une meilleure alimentation. Et on faisait passer ça pour des. Ça s'appelait des centres, ça avait un nom spécial d'ailleurs. C'était reconnu officiellement. Et lorsque les Allemands ont envahi la zone sud, évidemment, ils en avaient connaissance. Et l'une des premières choses qu'ils ont faites, dans la zone sud, où on avait surtout centralisé ces camps, puisque c'était la zone non occupée, enfin la zone non occupée jusque-là, et il y en avait énormément, et les Allemands les ont recherchés au maximum. Et on a essayé, évidemment, Madame Blatin avait déjà intégré cette maison des Dieux, et on lui avait dit, ça devient dangereux, il faut trouver, elle n'était pas là d'ailleurs le jour de la rafle, et elle était partie pour chercher un autre lieu moins dangereux, et pour disperser les enfants en particulier, chercher des familles. Et c'est en son absence qu'a eu lieu la rafle. Mais ça s'appelait les centres médico-sociaux d'ailleurs. Un peu partout dans la zone non occupée, il y avait des centres médico-sociaux. Et en Haute-Savoie, du camp d'occupation italienne, ils existaient déjà, et on avait beaucoup d'enfants, et je me rappelle d'avoir connu Mme Farman. Mme Farman, c'était des constructeurs d'avions de Paris, ils avaient un centre de vacances pour l'enfant du personnel à Chamonix, et nous l'avions beaucoup aidé pour qu'elle puisse maintenir ses enfants, du moins les enfants juifs, dans ce camp, et qu'elle ait quelques subsides, parce que les Farman, eh bien, étant juifs, ils n'avaient plus rien, ils avaient été spoliés de leurs biens aussi. On a eu des mille et une occasions, au coup par coup, d'aider les gens, d'aider les, dans des situations particulières, quoi.
Juste deux autres choses que je voulais dire. Pour nous, membres d'amitié, enfin, chrétiens de l'amitié judéo-chrétienne, je pense que si on veut faire un geste d'amitié, de soutien vis-à-vis de la communauté juive d'Annecy, on peut, chaque année, le dimanche qui est le plus proche du 16 novembre, en commémoration donc de la rafle des Marquisards, il y a une commémoration à l'hôtel
de Marquisat,
et ensuite au quai Jules Philippe, où il y a eu 4
à la place des enfants, parce que nous avons été responsables, c'est nous qui avons fait mettre les plaques, mon mari et moi et d'autres amis, avec quelques rescapés, nous avons voulu faire mettre des plaques en mémoire de ceux qu'on avait portés, et puis ensuite des plaques à la mémoire des enfants. Alors il y a deux cérémonies où, quelquefois, je déplore qu'il n'y ait pas assez de monde, enfin, voilà, celle-là est. Pour le 60e anniversaire, c'était remarquable d'ailleurs, il y a eu énormément de monde.
Voilà, une dernière chose, en fait, s'il y a eu des gens comme Charles Maurras qui ont siégé à l'Académie française, qui donne une autre idée d'ailleurs de l'Académie française, même s'il ne faut pas généraliser, il y a eu quand même d'autres personnes, parce que vous pouvez dire pourquoi Samuel Pintel est présent chaque année, et dire pourquoi il a échappé à la rage de ce jour-là.
Alors Samuel Pintel était un petit garçon, et moi j'allais voir ses enfants, et j'aurais pas dû le faire puisque j'étais à la préfecture et j'aurais dû au contraire les dénoncer, tout simplement parce qu'il y avait Madame Beauce ici, il y avait cette famille qui était une de nos voisins, et qui savait qu'il y avait des gens détenus, et on allait clandestinement leur apporter ce qu'on pouvait. Ils n'avaient rien, ce n'étaient que des femmes avec leurs enfants, les maris avaient déjà été déportés. Madame Pintel était là avec son fils de 7 ans, comme beaucoup d'autres mamans, les enfants étaient scolarisés, j'ai même la photocopie des notes de ces enfants, elles étaient bien supérieures aux notes de beaucoup de petits Annéciens, je vous assure, ils étaient scolarisés au pied Jules Philippe. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé, on a pu recenser les enfants qui avaient disparu, en faisant des recherches de ce genre, et Monsieur Pintel, le père, s'était engagé dans la Légion étrangère, en pensant que sa femme ne serait peut-être pas arrêtée, ou bénéficierait d'une mesure peut-être de clémence. Pas du tout, elle a dû fuir, on avait mis les CD sur leur appartement, comme pour toutes ses familles, et elle a erré de camp en camp à travers la France, et elle est arrivée ici, parce qu'elle a été envoyée ici, à l'hôtel des Marquisats, qui était précédemment occupé par les républicains espagnols, qu'on a embarqué dans les bois, pour faire du charbon de bois, dans les bois de la Jeanne. Comme c'était devenu libre, on les a mis là, c'était l'organisation des groupements de travailleurs étrangers sous contrôle de Vichy qui avait les locaux. Et Samuel Pintel, donc, on voit arriver le jour de la rafle, le 16 novembre 1943, sur les ordres de Barbie, des voitures allemandes, c'était la fête de gendarmerie qui venait de Lyon, et on voit arriver cette voiture qui arrive directement vers l'hôtel des Marquisats, et on crie. Sauf qui peut, si l'on peut dire, on aperçoit les Allemands, on crie, et certains de ces gens ont pu s'enfuir d'ailleurs dans les bois, et quand nous avons aidé par la suite, et c'est toute une histoire, mais je vous dis, une histoire que j'aurai la nuit pour vous raconter, il faudrait la nuit pour vous la raconter. Et donc, Samuel Pintel jouait près de la cuisine avec un petit camarade qui s'appelle Green Blatt et qui est au Canada, et la cuisinière, c'était la seule non-juive, parce qu'une employée de cuisine, comprend la chose, elle avait des deux petits garçons jouaient devant la cuisine, elle les fait entrer, et elle les tire vers elle dit, vous êtes mes petits garçons. Et lorsque les Allemands sont arrivés et ont contrôlé, elle avait sa carte d'identité non-juive. Et quand ils ont dit, les enfants, elle a dit, ce sont les miens, mais c'est une chance. Et donc, elle les a sauvés comme ça, et le lendemain, c'est Lozé qui les a pris en charge, il a fallu les emmener aussitôt à Chambéry où était le siège de Lozé, et là, qui est-il, c'est Samuel qui me racontait après, eh bien, un monsieur avec une bicyclette et une remorque, et c'était monsieur Zlatin qui était venu d'Izieux à Chambéry à bicyclette par le col de l'Épine chercher ses deux petits garçons. La mère de Samuel a été arrêtée et a eu le temps de jeter un petit papier qui a été recueilli par les personnes qui sont restées dans la maison. Donc cette personne qui l'a toujours retrouvée, qui était à la cuisine, et elle avait mis avertir de mon arrestation telle famille à Paris, une famille de leurs voisins, qui prenait quelquefois Samuel en vacances dans leur maison de campagne. C'était une famille chrétienne d'ailleurs. Et ils sont venus chercher à Izieux, quelque temps avant. Et il a échappé donc à la rafle à Izieux, encore une fois de plus. C'est-à-dire à quoi tient le sol de ça. Par contre, quand nous avons inauguré la plaque et qu'on a commencé, tout au 50e anniversaire de l'anniversaire de la rafle, puisque j'ai retrouvé à ce moment-là des gens qui recherchaient depuis longtemps les années siennes qui avaient pu se souvenir, eh bien, il y avait une dame qui était là avec ses trois enfants, et elle me dit, écoutez, moi j'ai échappé à la rafle pour la raison que j'étais allée chercher mes garçons, mes enfants au piège de Philippe, je n'avais pas d'heure, et j'ai traîné, et je suis arrivée après la rafle. Elle aurait pu être. Et elle a échappé à la rafle. Et je lui dis, qu'avez-vous fait, madame? Eh bien, écoutez, j'étais juive, j'étais étrangère, je ne savais pas parler le français correctement, je ne connaissais personne, je n'avais pas d'argent. J'ai recouché au centre. Et le lendemain, on s'est débrouillé pour la faire admettre à la Croix-Rouge avec ses trois enfants. Voilà comment ils ont échappé à la rafle. Et j'en ai retrouvé quelques-uns, pour le cinquantenaire, à ce moment-là, que nous avions caché un petit lieu, j'ai retrouvé une de ces trois enfants Vodovska, il y en a une qui était vice-consul de France à San Francisco. Cette surprise de la retrouver si longtemps après dans cette situation. Je dis, j'ai été confronté à des situations qui ont bouleversé ma vie, qui ont marqué ma vie et qui ont fait que je me suis dit, je ne me tairai jamais, je parlerai toujours de ça, j'essaierai toujours que l'homme est capable du meilleur comme du pire et que dans les crises économiques, quelles qu'elles soient, il y a toujours la tentation d'adhérer à un mouvement qui, sur des aspects philanthropiques ou sociologiques ou autres, attire et risque d'entraîner, comme l'ont été certains miliciens chez nous, quoi. Voilà. Mais ça m'a fait une grande famille, je vous assure, parce que j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis juifs maintenant, je connais des grands rabbins, des tas de gens comme ça. Ah ben oui, il y a des ouvrages, hein, sur Izieux, il y a beaucoup d'ouvrages. Hein. Oui, bien sûr, tenez, là, les enfants d'Izieux. Si vous avez Izieux, vous trouverez des quantités de livres, des quantités de documents, et même le témoignage. Il y a des bornes sur lesquelles vous avez des témoignages à Izieux. Vous allez à Izieux. On y est allé ensemble. Oui. Il y a encore beaucoup d'exemples. On va y être allé aussi.
Il y a eu l'attitude exemplaire aussi du directeur de l'école de Juifs.
Merci. Oui. Non.